Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons souvent tendance à croire que les concepts et les idées sont immuables à travers les siècles. Pourtant, dans l'étude de l'histoire, l'utilisation d'expressions peut parfois nous placer dans le pur anachronisme. Il ne faut pas effectivement oublier qu'au fil des années, au fil des générations, non seulement les mots, mais aussi le sens des mots évoluent. Il en est ainsi du mot « spiritualité », un mot que l'on rencontre dans les textes du Moyen-Âge qu'à partir du XIIe siècle. À cette époque, la « spiritualitas » désignait très simplement ce qui était indépendant de la matière. En soi, ce sens n'était pas spécifiquement religieux. D'ailleurs, de nos jours, le grand Robert en donne le même sens dans une première définition, mais dans une deuxième définition, le mot désigne aussi, je cite, « l'ensemble des croyances, des exercices qui concernent la vie de l'âme, le mysticisme religieux ». Le grand Robert, enfin, continue en nous donnant les contraires de la spiritualité, à savoir l'animalité et la matérialité. Disons-le d'emblée, la spiritualité est un concept moderne qui désigne bien une religiosité. Naturellement, elle ne se limite pas aux clercs séculiers ou aux clercs réguliers, aux prêtres en paroisse ou aux moines reclus. Pratiquée par les laïcs, la spiritualité, c'est-à-dire les façons de vivre et d'interpréter le message chrétien, varie d'un groupe à l'autre. Pour cette raison, nous parlerons plus facilement des spiritualités. L'émission « Un jour dans l'histoire » vous propose aujourd'hui de découvrir cette spiritualité médiévale, mais aussi de s'arrêter tout particulièrement sur une dévotion, celle rendue à l'archange Saint-Michel, incarnée par ce chef-d'œuvre d'histoire et d'art qu'est le fameux Mont Saint-Michel en Normandie. Comment donc s'exprimaient les spiritualités médiévales? Que représentait l'archange Saint-Michel pour ces hommes et ces femmes du Moyen-Âge? Bénéficiait-il d'un culte particulier? C'est ce que je vous propose de découvrir avec André Vaucher. André Vaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions des belles-lettres, médiéviste. Vous avez écrit sur l'histoire de la sainteté, l'histoire des pratiques religieuses médiévales, l'histoire du monachisme. Et pour réaliser cette émission, je me suis aidé de votre ouvrage publié de nombreuses fois, la dernière édition est l'édition du Seuil, la spiritualité du Moyen-Âge occidental, 8e, 13e siècle. Donc, point Seuil, histoire. Vous avez aussi dirigé un colloque avec deux confrères, Pierre Bouet et l'italien Giorgio Otranto, un colloque consacré au culte et au pèlerinage à Saint-Michel en Occident, en étudiant à l'occasion de ce colloque, les trois monts dédiés à l'archange. Alors, ces actes ont été publiés dans la collection de l'École française de Rome en 2003. Alors, André Vaucher, allons directement vers le sujet, la spiritualité médiévale. Peut-on dater la genèse de cette spiritualité?
Pas de façon précise, parce que la spiritualité, c'est un très long mouvement et il y a de nombreuses inflexions de la spiritualité. Puisque la spiritualité, comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas ni la doctrine, ni uniquement des pratiques. C'est, je dirais, cette zone intermédiaire entre les croyances et les pratiques. Et ces pratiques varient en fonction du contexte historique, politique, social et évidemment religieux. Donc, il y a toujours eu une spiritualité. Simplement, nous la saisissons très mal, disons grossièrement, dans la période antérieure au 8e, 9e siècle, parce que les sources écrites en particulier sont peu abondantes et les témoignages artistiques qui nous en sont restés peu nombreux. C'est à partir de l'époque carolingienne qu'on commence à y voir un petit peu plus clair, parce que des auteurs monastiques surtout, mais pas seulement, ont commencé à écrire, et en particulier à écrire des règles, à écrire des traités de vie spirituelle pour les moines et même pour les laïcs, auxquels on commence à s'intéresser au 9e siècle comme un groupe, disons, autonome, qui a ses propres problèmes, en particulier les princes, les chefs, tous ceux qui ont un pouvoir. Comment peuvent-ils vivre une vie chrétienne tout en étant, en exerçant leurs fonctions, en vivant dans le monde, etc.
Alors, on distingue quatre grandes périodes, hein, ce sont les quatre grandes périodes de votre ouvrage, la spiritualité du Moyen-Âge occidental. Quelles sont-elles, ces périodes?
Alors, il y a une période, justement, qui commence, qu'on saisit en tout cas à partir du 8e, 9e siècle, qu'on peut appeler l'époque carolingienne, même si l'Empire carolingien n'a pas recouvert toute l'Europe, mais enfin, coïncider avec une grande partie de celle-ci. Ensuite, il y a une période charnière, vraiment décisive, entre, disons, la deuxième moitié du dixième, vers 950, en gros, ces chiffres sont toujours assez approximatifs, jusque vers la fin du XIIe, qui est une période d'évolution rapide, avec un grand essor, par exemple, de nouvelles formes de vie monastique et de nouveaux ordres religieux d'un nouveau type aussi.
Nous allons revenir dans le détail de chacune de ces périodes.
Et aussi le phénomène des croisades, bien entendu, qui est une grande étape dans la spiritualité des laïcs. Et puis ensuite, il y a une période 13e, première moitié 14e, qui est surtout marqué d'une part par l'affirmation des ordres mendiants, les nouveaux ordres fondés par Saint François, Saint Dominique et quelques autres, et puis parallèlement la naissance et le développement de mouvements religieux, de laïcs aussi, de pénitents, qui vont donner naissance à des confréries. Et alors, dernière période, ce sera, autour de 1350, la date charnière classique, c'est 1348, la peste noire. Donc, disons, du milieu du XIVe jusqu'aux premières décennies du XVIe, parce que maintenant, on a tendance à faire déborder le Moyen-Âge, en tout cas dans le domaine religieux, jusqu'aux années 1520-1530. C'est les choses, bien sûr, que Luther a proclamé ses thèses en 1517 contre les indulgences, mais les choses ne changent vraiment qu'à partir des années 1530.
Alors, entamons, si vous le voulez bien, l'époque carolingienne. C'est une époque qui est considérée comme la civilisation de la liturgie. Que signifient ces mots, civilisation de la liturgie ?
Alors, civilisation de la liturgie, parce que, véritablement, c'est l'axe de la vie religieuse. Non seulement la messe, mais l'office monastique, les cérémonies qui sont très ritualisées, les consécrations d'église, les dédicaces, les bénédictions, etc. Donc il y a une sacralisation du monde par l'intermédiaire de la liturgie. Et je pense que ce qui nous permet le mieux de comprendre, ou en tout cas d'évoquer cette période, aujourd'hui bien lointaine pour nous, c'est un peu ce qui se passe dans le monde orthodoxe. Le monde orthodoxe est encore aujourd'hui une civilisation de la liturgie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font que cela, bien sûr, mais tout est centré autour de la célébration de la divine liturgie, comme on dit dans le monde jadis byzantin, et aujourd'hui russe ou orthodoxe en général. Donc c'est la célébration la plus solennelle, la plus glorieuse, la plus somptueuse possible, de la liturgie qui est vraiment le centre, l'axe de la vie religieuse. Et c'est pour ça que les spécialistes de la liturgie que sont les moines sont au centre aussi de la spiritualité de cette époque.
Est-ce qu'il existait un moralisme à l'époque carolingienne ?
Alors justement, la nouveauté, c'est qu'on ne se contente pas de célébrer des liturgies de plus en plus belles, de plus en plus longues, de plus en plus fastueuses, mais il y a chez les... Alors c'est plutôt du côté des clercs et surtout des archevêques et évêques, un souci nouveau d'offrir des perspectives religieuses aux laïcs, et en particulier aux grands laïcs, parce que nous sommes une société très hiérarchisée, où l'on considère que ce que fait ou ce que dit le prince, l'empereur bien sûr, mais aussi ses collaborateurs, les grands de ce monde, tout cela est fondamental et les peuples suivront. Par exemple, quand on convertit un peuple païen, eh bien on convertit son roi et ensuite, automatiquement, les fidèles, les sujets de ce roi se convertissent avec lui. Donc ce qui est important, c'est de christianiser la haute aristocratie, de lui proposer un modèle de vie chrétienne dans le monde. Et c'est pour ça qu'on commence à élaborer des traités de morale qu'on appellerait aujourd'hui presque professionnels, c'est-à-dire comment être un bon chef chrétien tout en... n'exerçant par exemple la violence, puisque le pouvoir ne se conçoit pas sans la violence. Autre préoccupation nouvelle, celle de la famille. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où le mariage, il existait, bien sûr, un mariage chrétien, mais la notion de mariage était encore extrêmement floue. Et les unions, disons, étaient très, très instables. Et l'Église essaye de sacraliser le mariage, la vie familiale, donc de donner à ces laïcs des repères chrétiens. Et donc on écrit pour eux, on appelle ça des miroirs, miroirs parce qu'ils doivent se refléter, la perfection, disons, doit les illuminer à travers ce miroir. Voilà.
Vous citez une belle chose et qui est en soi révélatrice, c'est le fameux manuel de Duoda. Quel était ce manuel ? Alors, et qui était Duoda ?
Duoda est une femme de haut rang, puisqu'elle était comtesse, voire duchesse à un moment en Septimanie, c'est-à-dire l'actuel Languedoc. Et elle s'est trouvée, à la suite de la mort de son mari, veuve avec un fils. Et donc, elle a écrit pour... elle a écrit elle-même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne l'a pas fait écrire par un moine ou un prêtre. Elle s'est sûrement entourée de conseils, mais elle a écrit elle-même pour son fils un manuel de vie chrétienne. C'est peut-être le premier écrit spirituel authentique qui émane d'un laïc. Alors, elle lui donne des conseils sur comment vivre, bien sûr, en bon chrétien, mais aussi comment se comporter vis-à-vis des autres. Là aussi, tout un aspect moral, voire qui peut nous paraître aujourd'hui un peu moralisateur, mais qui est vraiment une nouveauté pour l'époque.
Il y a un nouveau mode de relation au divin secret à l'époque carolingienne, alors que longtemps, les historiens ont cru qu'il y avait une régression par rapport aux dernières années de l'Empire romain.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une période, je ne dirais pas sombre, mais enfin dure, disons, pour l'Église, et avec un abaissement certainement qualitatif au moins, des formes de vie religieuse à l'époque qu'on appelle en France mérovingienne, c'est-à-dire la période 6e, 7e siècle, puisqu'il y a eu d'une part irruption dans l'Europe de l'Ouest de peuples qui n'étaient pas tous chrétiens, ou même lorsqu'ils l'étaient, ils l'étaient très superficiellement, même s'ils avaient reçu le baptême. Et puis d'autre part, ça a été la grande époque de la christianisation des masses rurales, parce qu'il faut bien voir que le christianisme est une religion de la ville. Ça nous étonne un peu, parce qu'on pense toujours le clocher, chaque village a son clocher, etc. On a tendance à croire aujourd'hui que le fait rural et la religion sont associés. Pas du tout. À l'origine, le christianisme est parti des villes.
D'où le mot paysan, d'ailleurs.
Le mot paysan, c'est ça. Le paysan, c'est le païen. Hein. C'est le même mot qui a donné à la fois paysan et païen en français. Et donc, il a fallu plusieurs siècles, entre le 6e et le 9e, pour que véritablement le milieu rural, les masses rurales, soient christianisées, soient encadrées dans des paroisses, ou en tout cas dans des communautés. Et ça ne s'est pas fait facilement. Alors, nous n'en savons pas grand-chose, ce processus de longue durée, parce que justement, c'est une époque où on en a peu écrit. Mais le résultat est là, au début du 9e siècle, il y a des paroisses à peu près partout dans les villages ou groupes de villages.
Je reçois André Vaucher au micro de Canal Académie. André Vaucher, vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres et nous évoquons la spiritualité au Moyen-Âge et nous verrons plus tard la spiritualité autour de Saint-Michel. Nous nous retrouvons après une première pause. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois André Vaucher. André Vaucher, vous avez organisé avec Pierre Bouet et Giorgio Otranto un colloque autour du culte et des pèlerinages à Saint-Michel en Occident. Ce sont des actes. Les actes du colloque ont été publiés dans la collection de l'École française de Rome. Et pour être complet, il faut signaler que ce colloque a eu lieu à Cerisy-la-Salle, qui possède un centre international qui accueille régulièrement donc des colloques s'étaient signalés. Il y avait eu notamment le colloque sur Tocqueville que nous avons largement évoqué dans l'émission Un jour dans l'histoire. Alors nous évoquons cette spiritualité médiévale, nous avons parlé de l'époque carolingienne, et l'époque carolingienne est suivie de l'époque monastique, donc 10e-11e siècle. Est-ce à dire, André Vaucher, que l'Église au temps carolingien était dominée par les ordres séculiers, tandis que l'époque suivante, elle, est dominée par la personne du moine? Et comment expliquer cette évolution et finalement ce succès de la spiritualité monastique?
Bien, à l'époque carolingienne, il y avait déjà beaucoup de moines, bien entendu. Le monachisme s'est développé en Occident à partir du 5e siècle, donc ce n'est pas une nouveauté. L'Église est véritablement dominée par les grands prélats, les évêques, les archevêques, qui sont les collaborateurs directs de l'empereur ou des rois. Et c'est une Église donc très séculière, qui collabore bien sûr avec les moines, qui essaye de les contrôler parfois, non sans problème, mais où le ton est donné, disons, par les clercs séculiers. Après l'an 1000, encore une fois, c'est une date de référence pratique, disons à partir du fin 10e ou 11e siècle, au contraire, ce sont les moines qui prennent le dessus et qui vont tirer l'Église pendant au moins deux siècles. Alors pourquoi ce tournant? Eh bien parce que d'abord l'épiscopat est entré en crise, après la désagrégation de l'Empire carolingien au Xe siècle, dans la plupart des régions d'Europe, sauf dans le monde germanique où l'Empire avait encore une certaine cohésion, les fonctions épiscopales ont été, je dirais, bradées, vendues, même parfois aux plus offrants. Donc il y a eu un processus de féodalisation des fonctions ecclésiastiques, de privatisation, comme on dirait aujourd'hui. Et bien sûr, ça n'a pas relevé le niveau ni moral ni culturel des évêques de l'époque. Et donc ceux qui ont pris le relais, un peu par la force des choses, ce sont les moines qui, eux, étaient, sinon à l'abri de ces processus, du moins y échappaient quand même un peu davantage. Donc le monachisme devient un peu le refuge, disons, de la spiritualité la plus authentique. Et la réforme de l'Église, qui va commencer au XIe siècle, par des monastères. Les signes avant-coureurs se manifestent déjà au Xe avec Cluny. Cluny est fondé donc, dans les années 909-910, bon, mais devient important après 950. Et puis ensuite, toute une série de monastères en France, en Italie, en Allemagne, vont se réformer. Alors se réformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout devenir plus autonome par rapport au pouvoir, ne pas être simplement un bien ou un ensemble de propriétés qu'un seigneur laïc lègue ou concède à un membre de sa famille pour lui faire plaisir ou pour assurer ses intérêts dynastiques. Oui. Donc constituer des monastères plus autonomes et surtout des ensembles de monastères, car jusque-là les monastères étaient indépendants, chaque monastère était absolument autonome par rapport à celui d'à côté. Les moines de l'époque ont compris que si on voulait résister justement à ces forces de sécularisation, il fallait s'unir entre moines, et c'est dans cette perspective qu'est né ce qu'on appelle l'ordre de Cluny, et puis ensuite, surtout au XIIe siècle, une structure beaucoup plus hiérarchisée, centralisée, qui est l'ordre cistercien, l'ordre de Cîteaux. Et les monastères qui entraient dans l'ordre de Cîteaux reconnaissaient tous la prééminence, la suprématie, d'une part de l'abbé de Cîteaux en Bourgogne, et aussi du chapitre général, qui est une nouveauté, qui réunissait tous les abbés de tous les monastères cisterciens une fois par an. Donc on a des fédérations de moines qui deviennent des véritables puissances au sein de l'Église.
Alors quel rôle jouent les laïcs, étant entendu que la notion de laïcité est absente de cette époque?
Alors,
est-ce qu'on peut parler, pour remplacer ce terme de laïcité, de religiosité populaire?
Oui.
Est-ce qu'elle existe?
Revenons d'abord sur le mot laïque, parce qu'effectivement, il est extrêmement ambigu aujourd'hui. Il est évident que quand on parle des laïcs au Moyen-Âge, il ne s'agit pas des tenants d'une laïcité extrême ou du laïcisme, comme on a pu en voir sous la Troisième République, au temps de M. Combes, par exemple. Ça n'a rien à voir. Les laïcs, c'est simplement ceux qui ne sont pas clairs. C'est une catégorie tout à fait nette, précise, du droit canonique. Il y a d'un côté, dans l'Église, il y a deux façons d'être chrétien. Ou bien on est clerc, c'est-à-dire clerc séculier, prêtre, évêque, diacre, prêtre, évêque, etc. Ou bien on est clerc régulier, moine. Hein. Ou bien on est laïc si on n'est ni clerc séculier, ni clerc régulier. Donc les laïcs, c'est presque tout le monde, c'est 94% ou 16% de la population. Donc, ce sont les gens mariés, ce sont les gens en général qui travaillent, sauf enfin, la haute aristocratie, encore que les fonctions politiques qu'elle exerce peuvent être assimilées à un travail. Donc, ce sont, c'est la masse. Et c'est pourquoi il est difficile de parler de religion populaire, parce qu'à ce moment-là, le peuple, c'est tout le monde. Alors, le mot peuple aussi est ambigu en français. Ça veut dire parfois tout le monde, et le peuple français, par exemple, ou bien c'est les classes populaires, les classes subalternes. Le mot religion populaire peut prêter, pour cette époque en tout cas, à équivoque. Mais ce qui est intéressant, 11e, 12e siècle, c'est que ces laïcs qui étaient au fond, je ne dis pas tenus à l'écart, on s'était déjà intéressé un peu à eux à l'époque carolingienne, mais qui jouaient un rôle passif et subalterne dans l'Église, commencent à vouloir s'assumer eux-mêmes et commencent à vouloir jouer un rôle spécifique dans l'Église. Et ceci, peut-être parce qu'ils étaient mieux formés, plus conscients que leurs prédécesseurs, mais aussi parce que la papauté a fait appel à eux, en particulier, pour des opérations qu'aujourd'hui nous qualifierions de militaires, mais qui à l'époque n'étaient pas tellement vécues comme telles, qui étaient les pèlerinages et les croisades. Des grands thèmes de l'Église à ce moment-là, c'est la reconquête de l'Espagne, d'une part, qui était aux deux tiers entre les mains des musulmans, et d'autre part, à partir de la fin du XIe siècle, les croisades. Il s'agit de reconquérir les deux tombeaux du Christ. La croisade n'est pas une guerre contre l'islam, contrairement à ce qu'on dit parfois, ou ce que les musulmans croient parfois. C'était simplement l'idée de reprendre, que les chrétiens devaient reprendre ce qui leur appartenait, puisque Jésus avait vécu là, puisque c'était la cité sainte, Jérusalem, et qui était au centre de leur croyance. Oui. Alors, par le biais donc de la croisade, un certain nombre de laïcs vont développer une vie religieuse autonome. Alors, ça peut évidemment nous choquer aujourd'hui parce que la croisade implique ou peut impliquer l'usage des armes. Mais parler de guerre sainte à ce propos n'a guère de sens parce que ce n'est pas une apologie de la guerre, c'est simplement parfois, quand on veut reconquérir un bien qu'on a perdu, eh bien, il faut parfois faire usage de violence. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, le fait que ces laïcs, ou d'autres laïcs, ont senti la nécessité de mettre en pratique leur christianisme à travers la charité. Et une charité, pas seulement individuelle, pas seulement faire l'aumône, mais fonder des institutions de bienfaisance, comme on dirait aujourd'hui, des hospices pour les pèlerins, pour les voyageurs, des hôpitaux pour les malades. Et on a une véritable explosion au XIIe siècle d'œuvres de charité, de léproserie, où non seulement les gens qui ont du bien donnent de l'argent pour construire ce genre d'édifice, mais souvent s'impliquent eux-mêmes, vont servir les pauvres, vont parfois se mettre au service des lépreux, etc. Mmh. Donc il y a une véritable, dans mon livre j'ai appelé ça la révolution de la charité, dans la mesure où on a toujours fait la charité bien sûr dans le christianisme, mais où désormais, on considère que, et c'est là justement que la spiritualité devient plus évangélique, et pour que l'acte charitable ait une valeur religieuse, il faut qu'il ait une implication personnelle, pas seulement faire l'aumône. Oui.
Alors nous sommes au XIIe siècle, c'est la troisième phase, la religion des temps nouveaux. Hein, Georges Duby appelait cette époque le siècle du grand progrès. Est-ce que le siècle se caractérise au fond par la recherche d'un équilibre trouvé entre la nature et la grâce qui avait tendance un peu à l'époque du monachisme à s'opposer?
Oui, le monachisme a eu toutes sortes de grands mérites. Il a eu sans doute à ce qui, nous, avec le recul du temps, nous paraît un peu un point faible, c'est qu'il a dévalorisé le monde, dans une large mesure. Pas exagéré, bien sûr, il n'est trop systématique, mais il a eu tendance, disons, à considérer que les gens qui vivaient hors du monde, les moines en l'occurrence, eux-mêmes, étaient appelés au salut, et que ceux qui vivaient dans le monde, eh bien, ils étaient très très menacés, ils avaient peu de chances de faire leur salut, parce que le monde était pécheur, le monde était dangereux, le monde risquait de les engloutir. Et donc, il y avait une vision un peu dualiste des choses. Si on voulait être religieux, il fallait aller s'enfermer dans un cloître. Et si on restait dans le monde, eh bien, on avait peu de chance de faire son salut. Et justement, ce qui évolue, c'est que le monde change. À partir du XIIe siècle, on est même déjà du XIe, enfin surtout XIIe, XIIIe, dans une époque de croissance démographique, économique, développement urbain, développement commercial, etc. Et donc le monde, finalement, n'est plus perçu seulement comme une vallée de larmes, comme un endroit où on commet des péchés, on fait le mal, pas seulement comme le royaume de la violence, etc. Donc, cette valorisation meilleure, plus positive du monde, va amener une revalorisation aussi de la condition des laïcs, puisque les laïcs sont des gens qui vivent dans le monde. Donc on va s'intéresser davantage à eux, dans une perspective pastorale, mais on va aussi leur donner des possibilités de promotion, je dirais, dans le cadre de mouvements associatifs, qui seront les confréries, qui seront toutes sortes de processions, de mouvements itinérants. Alors il y a les pèlerins, bien sûr, mais il y a aussi des processions de pénitents, par exemple, qui vont essayer de rétablir la paix dans certaines villes, dans certaines zones particulièrement perturbées, etc. Donc, il y a meilleure prise en compte, disons, des réalités temporelles qui bénéficient au laïc dans la mesure où le laïc est l'homme qui vit en ayant une référence religieuse, vit au milieu du monde.
Alors, dernière période avant d'évoquer et d'en venir à Saint-Michel, les 13e et 14e siècles, c'est une période, dites-vous, moins originale que la précédente. C'est le siècle de l'évangélisme. En quoi elle fut moins originale que la précédente, André Boucher?
Elle est moins originale dans la mesure où elle est plutôt le prolongement et l'épanouissement de tendances que j'ai déjà indiquées précédemment et qui caractérisent... disons surtout le XIIe siècle.
Une apogée en soi ?
Voilà, c'est une sorte d'apogée, mais qui a quand même un caractère extrêmement important. D'abord parce que les idéaux, justement, du XIIe siècle se diffusent. Il y a un processus de vulgarisation, de banalisation, mais c'est important. Ça touche les masses. Toutes ces idées que j'ai évoquées à l'instant, elles sont reprises et diffusées par la prédication. La grande nouveauté du XIIIe siècle, c'est qu'on commence à prêcher. Bien sûr, on avait déjà prêché avant, mais on prêchait surtout aux moines, ou on prêchait dans des petits auditoires assez restreints. D'ailleurs, on prêchait souvent en latin, donc les gens qui ne savaient pas le latin étaient exclus. À partir du XIIIe siècle, il y a une véritable prise en charge par l'Église d'une prédication, dans le cadre des paroisses, mais aussi des couvents, des ordres mendiants, qui visent à faire connaître vraiment la parole de Dieu et ses exigences aux fidèles. Et donc, toutes ces idées qui, peut-être, étaient déjà dans l'air depuis quelque temps, elles vont passer, comme on dit aujourd'hui, dans le domaine public. Et ça, ce n'est pas un résultat négligeable. Hein. Il y a une évolution du sentiment religieux. Par exemple, la dévotion à l'humanité du Christ, au Christ souffrant, à l'Eucharistie, ce ne sont pas des nouveautés absolues dans le christianisme, mais ça passe seulement à ce moment-là, disons, au niveau de la spiritualité des fidèles, de la vie religieuse quotidienne.
Il existe même, vous consacrez toute une sous-partie à ce sujet, un christianisme au féminin, alors qu'on a tendance à écarter la femme de la chrétienté médiévale.
Voilà, alors là, il y a une véritable nouveauté, à partir de la fin du XIIe, mais surtout au XIIIe siècle, l'entrée en scène des femmes qui étaient largement, disons, en retrait dans les siècles précédents. Alors c'est lié aussi à l'évolution bien sûr de la société, au développement de l'amour courtois par exemple, qui valorise davantage la femme qu'auparavant. C'est lié aussi à l'essor du culte marial qui exalte et combien. Il suffit de penser à toutes les cathédrales dédiées à Notre-Dame, le rôle de la femme dans le salut. Il n'y a pas seulement Ève, il y a Marie. Donc la femme n'est pas seulement fille d'Ève. Est aussi sœur de Marie ou fille de Marie. Donc il y a une nouvelle appréciation du rôle des femmes. Et surtout, les femmes s'engagent activement dans la vie religieuse. Enfin, beaucoup de femmes. Alors, soit sous une forme traditionnelle, monastique, les cisterciennes, puis plus tard les dominicaines, par exemple. Soit, et c'est plus original, dans le cadre de petites communautés qui essayent de pratiquer une vie religieuse ensemble, sous le sceau en général de la pauvreté. Donc c'est ce qu'on appelle par exemple dans les Pays-Bas les béguines, mais il y en avait aussi en France, du Nord en tout cas. Il y a aussi les pénitenteux, les recluses qui s'enferment, mais qui conservent quand même un contact avec le monde et qu'on venait souvent consulter pour avoir des avis sur des choix de vie ou des décisions à prendre. Bref, il y a toute une entrée en jeu et en scène des femmes dans la vie religieuse qui va être très très importante parce qu'elle va donner au christianisme occidental une nouvelle dimension qui est la dimension mystique. C'est-à-dire que le christianisme n'est plus seulement quelque chose de masculin, que ce soit sur le plan doctrinal, la théologie, ou sur le plan pratique, les œuvres, les bonnes œuvres, mais une nouvelle dimension affective En particulier liés à la méditation des souffrances du Christ et de la Vierge Marie, etc. Et puis la piété eucharistique qui permet de voir le Christ présent dans l'hostie. Donc toute une nouvelle spiritualité très marquée par la mystique féminine.
Alors comment entre le culte et les pèlerinages à Saint-Michel dans ces étapes de la spiritualité du Moyen-Âge occidental ? C'est ce que je vous propose de voir, André Vaucher, après une deuxième pause.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois André Vaucher, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, auteur de la spiritualité du Moyen-Âge occidental, 8e-13e siècle. Vous retrouvez toute la bibliographie d'André Vaucher sur le site de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et sur le site de Canal Académie. Alors, nous en venons, André Vaucher, au culte à Saint-Michel, au Moyen-Âge. Mais avant tout, une question de ma foi toute simple, qui était Saint-Michel ?
Alors, Saint-Michel n'est pas une invention du Moyen-Âge, c'est un personnage biblique. Il est mentionné dans un certain nombre de livres de la Bible, enfin les plus tardifs, disons, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et dans le livre de Daniel en particulier, le prophète Daniel, et il apparaît comme un ange envoyé par Dieu dans certains moments particulièrement difficiles pour son peuple, pour l'aider, pour le soutenir. Au moment des persécutions, par exemple. Donc, c'est un héritage de l'Ancien Testament. Mais disons que le culte de Saint-Michel a connu un grand essor, surtout à partir du 4e, 5e siècle. D'abord en Orient, il ne faut pas oublier que les origines du culte de Saint-Michel sont orientales, byzantines. Il y avait des sanctuaires à Saint-Michel à Constantinople et ailleurs, dans le monde byzantin. Et à partir du 5e siècle, il passe en Occident. Et sur un site bien précis, qui est ce qu'on appelle le Mont Gargan en français, le Gargano en Italie. C'est une sorte de pointe, de péninsule qui avance montagneuse, très belle montagne, qui avance dans la mer, dans l'Adriatique, et au sommet de laquelle donc, se trouve aujourd'hui un sanctuaire et une petite ville qu'on appelle le Monte Sant'Angelo, le Mont Saint-Ange. Et c'est là qu'il y aurait eu la première apparition de Saint-Michel, qui date donc du 5e siècle. Et les populations de cette région, donc de l'Italie du Sud, ont adopté très rapidement le culte de Saint-Michel, qui s'est ensuite répandu dans toute la chrétienté. Et alors il ne faut jamais oublier, en France on a tendance à, et c'est normal, à faire grand cas du Mont-Saint-Michel, mais le Mont-Saint-Michel est bien postérieur, puisque le sanctuaire a été fondé il y a presque 13 siècles. On va célébrer en 2008, le 13e centenaire de la fondation du Mont-Saint-Michel, donc en 708, par l'évêque d'Avranches Aubert, mais le sanctuaire du Mont Gargan, en Pouille, est antérieur d'au moins 2 siècles.
Mmh. Oui, le culte de Saint-Michel en France est inséparable du culte qui lui est rendu en Italie. Il y a, je ne sais plus quel est l'intervenant du colloque qui mentionne ce fait, mais il y a un lien entre l'Italie et le nord de la France où se développe ce culte.
Absolument. D'ailleurs, la légende, car c'en est une, qui raconte que l'évêque Aubert a créé ce sanctuaire donc sur cette petite île au péril de la mer, comme on dira à la fin du Moyen-Âge, cet évêque Aubert serait allé chercher des reliques de Saint-Michel, précisément en Italie du Sud, en Pouille. Alors on me dirait quelle relique, puisque un ange, par définition, ne meurt pas. Et en fait, il semblerait que ce serait les uns disent une plume de Saint-Michel, puisque les anges sont censés avoir des ailes. Bref, il aurait ramené quelques traces de la présence, de l'apparition de Saint-Michel. En tout cas, il y a un lien très étroit entre les deux sanctuaires. Et ensuite, autour de l'an 1000, enfin au début du 11e siècle, va se créer un mi-chemin sur cette route justement qui va de la Normandie à la Pouille. N'oublions pas que la Pouille faisait partie, l'Italie du Sud a été conquise par les Normands. Donc il y avait des liens entre ces deux régions à partir du 11e siècle. Et à mi-chemin, dans une vallée des Alpes, près de Turin, s'est élevé alors un troisième sanctuaire qui est un peu moins célèbre que les deux autres, et qui est Saint-Michel de la Cluse, San Michele della Chiusa, et qui est à mi-chemin, donc, et où va se développer aussi tout un culte de Saint-Michel, donc, qui va irradier dans toute l'Italie du Nord. Donc on a trois grands sanctuaires, les deux principaux, plus le sanctuaire italien d'après l'an 1000, et puis ensuite, alors ça va se démultiplier, on aura des Monts Saint-Michel en Angleterre, en Allemagne, et puis beaucoup d'églises paroissiales ou autres dédiées à Saint-Michel. Donc c'est un patron, un saint dont le patronage est très recherché.
Alors Philippe Faure se penche sur l'angélologie et la dévotion aux anges au Mont Saint-Michel. Que représentent les anges dans la dévotion populaire au temps médiévaux, André Vaucher ?
Alors là aussi, il y a une évolution. À l'origine, Saint-Michel, et puis il l'est resté d'ailleurs, est d'abord l'ange du jugement, c'est-à-dire celui qui guide les âmes après la mort. Il y a cette idée qu'une fois qu'on est mort, eh bien, il faut gagner, on ne sait pas trop comment, c'est mystérieux, le lieu du jugement, où aura lieu le jugement dernier. Et donc l'ange prend par la main, en quelque sorte, le fidèle trépassé, et le guide jusqu'au tribunal divin, pour employer une métaphore judiciaire. Donc il est le psychopompe, comme on dit dans le monde byzantin, le guide des âmes trépassées. Donc ça, c'est sa fonction première. Mais ensuite sont venues s'ajouter d'autres fonctions, en particulier celui des défenseurs contre le démon, parce que Michel, c'est le chef des anges, de ces anges qui sont restés fidèles à Dieu lorsque Lucifer, lui, a trahi. Il y a eu une révolte des anges, et donc une partie des anges ont été chassés du ciel par Michel et les autres restés fidèles à Dieu. Ils ont repoussé le démon dans les espaces inférieurs, c'est-à-dire précisément sur notre terre. Et à partir de ce moment-là, les démons ont commencé à faire des dégâts, à essayer de séduire les hommes, ou les induire au mal, etc. Donc on invoque Michel contre les démons. Alors on l'invoque dans les tentations, mais on l'invoque aussi pour se protéger contre tous les périls qui peuvent menacer l'homme. Alors l'homme privé, l'individu, mais aussi l'homme en société. Beaucoup de statues de Saint-Michel à la fin du Moyen-Âge, en particulier, se trouvent sur les clochers des beffrois, des palais communaux. C'est aussi un saint protecteur de la cité, par exemple. Le saint protecteur du roi à la fin du Moyen-Âge, puisque Louis XI a fondé un ordre de Saint-Michel, un ordre de chevalerie, pour récompenser et encadrer les nobles de son royaume.
C'est dans cette perspective qu'en 813, il devient Saint-Michel le saint protecteur de l'Empire chrétien d'Occident.
Voilà, déjà Charlemagne avait placé l'Empire, son propre empire, sous la protection de Saint-Michel, et d'ailleurs il avait fondé un certain nombre d'église en l'honneur de Saint-Michel, en Allemagne en particulier, Saint-Michel de Hildesheim, qui est une très grande église carolingienne. Mais cette dévotion, disons, ensuite, s'est démultipliée, elle a gardé cette dimension politique, mais elle s'est aussi individualisée. Et à la fin, finalement, du Moyen-Âge, on a d'un côté donc, Saint-Michel comme protecteur des États, du Royaume de France, etc. Et puis on a aussi un Saint-Michel qui se rapproche de l'ange gardien, c'est-à-dire un défenseur du chrétien, de l'individu chrétien, face à toutes les tentations, les menaces, les formes du mal, etc. Donc il est invoqué dans toutes sortes de circonstances, d'où l'importance du pèlerinage au Mont Saint-Michel, et avant du pèlerinage au Mont Gargan, où sont allés, par exemple, dès le 7e, 8e siècle, les nouveaux chrétiens, les peuples nouvellement convertis. Par exemple, on l'a trouvé il y a une vingtaine d'années, sur les murs du Mont Gargan, l'Ampouille, dans le sanctuaire de Saint-Michel, des inscriptions en caractère runique. Or, les runes, c'était une sorte d'alphabet primitif qui était utilisé par les Scandinaves. Donc, ces peuples à peine convertis au christianisme sont venus évidemment à Rome, puisque c'était de Rome qu'ils avaient reçu la foi chrétienne, mais ils sont allés aussi jusqu'en Pouille pour vénérer Saint-Michel.
Nous avons, lors de la première partie de cette émission, marqué les différences entre les différentes époques de la spiritualité médiévale. Est-ce qu'il y a une certaine constante, au contraire, donc, dans la dévotion, et particulièrement dans la dévotion à Saint-Michel ?
Oui, la dévotion à Saint-Michel est vraiment une constante, on peut le dire, avec cependant, puisque rien n'est immuable, surtout le Moyen-Âge, ça a duré 1000 ans, donc il y a évidemment des changements, des inflexions, dirais-je, d'une époque à l'autre. Il est certain que le culte de Saint-Michel dans le haut Moyen-Âge donc, est surtout un aspect très, très militaire, très guerrier. Mmh. C'est vraiment la lutte contre Satan. Sous les formes, y compris sous les formes les plus violentes. Le combat, vraiment, Saint-Michel est représenté avec sa lance, avec son bouclier, un aspect militaire. Oui. Et puis, il devient, comme je le disais, à mesure que la vie religieuse s'intériorise, il devient un soutien contre les tentations. Il reste un introducteur des morts dans le royaume de Dieu, en tout cas au jugement. Comme ce jugement, maintenant, est considéré, parce qu'il y a une évolution, là aussi, des croyances, on considère à partir du XIIIe, XIVe siècle que les âmes des défunts seront jugées immédiatement et non plus seulement à la fin du monde. Alors, Saint-Michel devient encore plus important puisque dès que le fidèle est mort, eh bien, il a besoin d'une assistance, comme on dirait aujourd'hui, pour le conduire devant son souverain juge. Mmh. Voilà. Donc je crois qu'au Moyen-Âge, encore une fois, il y a eu des grands changements. Il y a une grande constante quand même, c'est qui différencie cette époque de la nôtre, par exemple, c'est qu'on a toujours considéré à cette époque, et pas seulement les clercs ou les moines, que l'enjeu principal de la vie sur Terre, c'était l'au-delà. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important, c'est de gagner ou de perdre son éternité. Et cela, ça influe énormément sur les comportements concrets des gens, par exemple. Pourquoi est-ce que les hommes du Moyen-Âge avaient tellement peur de l'excommunication? Parce que s'ils étaient excommuniés, ils n'avaient plus de sacrements. S'ils n'avaient plus de sacrements, ils perdaient tout espoir d'être sauvés par le Christ à la fin. Donc, il faut toujours, pour comprendre cette période, quelles que soient les époques, avoir bien présent cette priorité. Ça ne veut pas dire que les gens ne s'intéressaient pas à la vie qu'ils menaient ou au monde d'ici-bas, mais ils avaient toujours la perspective de ne pas rater, comme on dirait aujourd'hui, leur éternité.
Le grand public assimile généralement la dévotion au Moyen-Âge à une sorte de déviation spirituelle, alors que Nicole Berriou montre bien dans son article, au cours du colloque « Culte et pèlerinage à Saint-Michel en Occident », Nicole Berriou montre bien que dans les prédications sur et autour de Saint-Michel qu'elle étudie, il n'y avait pas de surenchère ou de surcharge légendaire.
Non, il y a bien sûr des légendes qui sont nombreuses concernant non seulement Saint-Michel, mais tous les saints. Et disons que l'esprit critique était relativement peu développé, même s'il existait, n'exagérons pas, dans la mesure même où la notion de nature n'est pas du tout la même que chez nous. Les sciences étaient encore très embryonnaires, donc on avait tendance parfois à attribuer à des phénomènes que nous qualifions, nous, de naturel, une signification surnaturelle. Voilà. Donc, c'est là aussi une différence par rapport à notre époque. Il y a une sphère beaucoup plus large du surnaturel. Cela dit, les pratiques n'étaient pas tellement superstitieuses, contrairement à ce qu'on dit parfois. Ce qui a été considéré comme superstitieux, en particulier à partir de la réforme protestante, c'était l'attribution d'indulgence, c'est-à-dire de réduction du temps de purgatoire qui était lié à certaines bonnes œuvres, que ce soit des dons aux églises ou des pèlerinages. Etc. Et ça a été considéré, à juste titre d'ailleurs, à partir du XVIe siècle, comme une, en quelque sorte, une intrusion de l'église et de l'homme dans ce qui est la liberté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est maître du temps. Donc, est-ce que l'homme a droit de dire que quand on aura fait telle ou telle bonne œuvre, on sera... quelle est la signification du temps dans l'au-delà? Après la mort, qu'est-ce que le temps? Est-ce qu'on peut réduire un temps alors qu'on valorise uniquement en fonction de critères actuels, et alors qu'on ne sait pas ce que sera le temps de l'au-delà. Oui. Voilà, donc il y a eu de grosses polémiques fin 19e, où l'historiographie protestante ou laïque a tiré à boulet rouge sur le Moyen-Âge en disant époque de vile superstition, mais on aurait tort de tout centrer sur les indulgences qui, d'abord, ne se sont développées qu'à la fin du Moyen-Âge, Et à côté de ça, il y a beaucoup d'autres pratiques qui n'ont rien de superstitieux.
Les actes du colloque et bien évidemment votre ouvrage, André Vaucher, La spiritualité du Moyen-Âge occidental, paru chez Poinceuil, bouleverse beaucoup d'idées reçues, cela va de soi. Nous nous retrouvons, André Vaucher, dans un instant, après une toute dernière pause. À tout de suite. Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à la spiritualité du Moyen-Âge occidental et tout particulièrement la spiritualité autour de l'archange, parce qu'il s'agit de l'archange Saint-Michel. Quelle différence d'ailleurs entre un archange et un ange, André Vaucher ?
Bien, l'archange, en grec, arché, c'est le commandement, donc c'est le chef des anges. Quoi. Il est au sommet de la hiérarchie, si tant est là aussi que... C'est une image humaine, pas accidentelle, ça a un sens d'avoir...
Il y a plusieurs chefs.
Le problème, c'est qu'il y a trois anges principaux, il y a d'innombrables anges, mais la plupart n'ont pas de nom. Alors il y a Michel, Gabriel, qui est l'ange de l'Annonciation, et Raphaël. Bon, ce sont les trois plus célèbres, ils sont nommément désignés dans des textes bibliques, donc ça leur donne, disons, une caution majeure. Et puis, d'autres passages de la Bible et de textes hagiographiques des vies de saints évoquent d'innombrables anges qui, eux, sont anonymes. Donc, il ne faut pas isoler Michel. Michel n'est pas tout seul. Il est, disons, le premier d'une myriade d'anges. Et la présence des anges est un fait, là aussi, majeur de la spiritualité médiévale. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces anges ? Faut pas se laisser obséder par leurs ailes ou par leurs plumes, même si ça donne aux peintres l'occasion de faire des magnifiques fresques ou tableaux. Par le fait de parler d'anges, ça veut dire que Dieu n'est pas seul. On considère que Dieu est toujours entouré d'esprits qui lui sont soumis. Dieu n'est pas une sorte de célibataire des mondes, comme disait Chateaubriand, quelqu'un qui vivrait tout seul au fond du ciel, il est entouré d'une cour céleste, comme on dit au Moyen-Âge, on dit la cour céleste, c'était les anges et les saints. Oui. Donc il y a entre Dieu et l'homme toute une hiérarchie descendante, mais il n'y a pas une coupure, c'est pas comme dans l'islam, c'est en cela d'ailleurs que le christianisme se différencie nettement de l'islam. Dans l'islam, il y a un Dieu transcendant, absolu, inconnaissable, etc. Bon. Et puis il y a l'homme, et entre l'homme et Dieu, il n'y a rien. Tandis que dans le christianisme,
il y a la communion des saints.
La communion des saints d'abord, et puis il y a des hiérarchies d'êtres spirituels, les anges, les archanges, qui finalement, peu à peu, mènent à Dieu. Oui.
Alors je reviens sur Terre, c'est le cas de le dire. Quel rôle jouent les reliques au Mont Saint-Michel ?
Alors les reliques, c'est assez faible parce que les anges ne sont pas des saints, justement, sont des êtres spirituels, alors que les saints sont des êtres humains. Donc quand un saint meurt, eh bien forcément un corps, il y a des ossements, bon, plus ou moins bien conservés, mais il y a des restes physiques. Alors, pour les anges, c'est évidemment extrêmement flou, disons. Alors qu'est-ce qu'on parle par exemple d'une ceinture qu'on aurait ramenée de Pouille au Mont-Saint-Michel, une ceinture de Saint-Michel ou une plume. Enfin oui, ce sont des choses qui sont à la limite du merveilleux. Là, on est en plein légendaire.
Mais à côté, il y a bien d'autres reliques, les reliques de Saint-Aubert.
Il y a toutes sortes de reliques. Mais alors là, il s'agit de saints, personnages historiques, humains, disons. Disons que le culte des anges ou des archanges, Saint-Michel, n'est pas... directement fondé sur le culte, n'est pas directement fondé sur les reliques, sur la présence de reliques. C'est plutôt ce qui compte pour les anges, ce sont leurs apparitions. Ce sera d'ailleurs un peu la même chose pour la Vierge Marie, puisque la Vierge Marie, à partir du moment où on considère qu'il y a eu assomption, son corps n'est pas resté sur terre, il a été enlevé au ciel, et donc la Vierge Marie, elle n'a pas laissé, sauf peut-être une ceinture qu'on vénère à Chartres, mais ou une tunique, elle n'a pas laissé de reliques physiques. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est les apparitions. Et c'est comme pour les anges, comme pour Marie. Et donc, ce n'est pas un hasard si les premiers textes qui nous rapportent la naissance du culte de Saint-Michel, tant en Pouille qu'au Mont-Saint-Michel normand, s'appelle apparition ou révélation de Saint-Michel. Ce qui compte, c'est l'apparition.
Alors justement, on ne peut pas parler de Saint-Michel sans évoquer une autre sainte, c'est Jeanne d'Arc. Et là, nous sommes nous sommes dans les apparitions. Il y a toute une communication de Philippe Contamine au cours de ce colloque.
Absolument. Donc, Jeanne d'Arc, comme chacun sait, entendait des voix, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, mais celui qui a été présent à ses côtés, enfin qu'elle sentait en tout cas comme présent à ses côtés, elle en a beaucoup parlé lors de son procès, puisque ses juges l'ont beaucoup interrogé là-dessus, c'est Michel. Alors, là aussi, avec toute la complexité du personnage de Michel à la fin du Moyen-Âge, c'est moins, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tellement le chef de guerre, le saint avec une lance, une cuirasse, épée, bouclier, etc. C'est pas tellement cet aspect-là que Jeanne d'Arc... Quand on lui dit, mais comment il vous apparaissait, Michel? Comment est-ce que vous le voyez? Lui demande ses juges. Elle dit pas, il avait une épée, une cuirasse. Elle dit, il avait une belle voix, il avait une voix douce, il m'enseignait telle ou telle chose. Donc elle le voit plutôt, non pas comme un saint militaire, mais comme un conseiller spirituel qui la guide, qui lui remonte le moral lorsqu'elle est démoralisée, qui l'aide à surmonter ses doutes. Oui, donc c'est une relation assez affective, assez intériorisée. Donc ça prouve bien que le culte de Saint-Michel avait, tout en restant apparemment identique dans ses formes, avait évolué, comme le reste de la vie religieuse, vers... une intériorisation croissante à la fin du Moyen-Âge. Oui.
Eh bien, André Vaucher, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer la spiritualité du Moyen-Âge occidental. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage paru chez Point Seuil Histoire, La spiritualité du Moyen-Âge occidental, 8e, 13e siècle, ainsi qu'aux imposants actes du colloque culte et pèlerinage à Saint-Michel en Occident, les trois monts dédiés à l'archange, sous votre direction donc et sous la direction de Pierre Bouet et de Giorgio Otranto. Cet ouvrage est sorti dans la collection de l'École française de Rome en 2003. C'était un colloque, encore une fois pour être complet, qui a été organisé à Cerisy-la-Salle. Et enfin, notre partenaire, le partenaire de Canal Academy, Le Figaro Collection, L'Esprit des lieux consacré au Mont-Saint-Michel, un petit fascicule que vous pouvez retrouver sans aucun problème sur le site lefigaro.fr. Merci beaucoup André Vaucher et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Thank you.